30 minutes d'infos choisies
chaque vendredi sur Radio Galère 88.4.
Le monde tel qu'on le connaissait s'écroule. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle.
Et bonjour.
Et salut.
Bonjour tout le monde.
Salut, salut. Vous êtes à l'écoute de Radio Galère.
Et il est midi et demi pétante, c'est les infos choisies comme tous les vendredis.
On est super ponctuel, on est trois en studio.
Alors, salut Bri-Bri à la technique.
Ah, ça c'est pas ça.
Salut Peggy, ça va.
Salut Zoom.
Voilà, aujourd'hui on va vous parler de plein de choses, le programme est très complet. On va parler de SOS Méditerranée à Toulon, de Bure, de l'Iran, de Vinci, et on va faire un agenda aussi.
Et voilà. Vous pouvez nous réécouter comme tous les lundis matins à 7h30 sur Radio Galère.
Voilà, on est aussi sur Aïoli, on passe le bonjour aux Avignonnais, Avignonnaises, je sais pas, ouais, ça doit être ça. Et voilà, et donc, vendredi prochain à 12h30, on sera là aussi, ce sera le 25 novembre, journée de lutte contre les violences sexistes et de genre. Et il y aura une journée complète spéciale sur Radio Galère, il y a même un petit jingle.
Le 25 novembre est la journée internationale de lutte contre les violences sexistes et genrées. Radio Galère soutient cette journée et se porte actrice pour faire entendre cette cause. Nous concoctons une émission spéciale 25 novembre, le jour même, de 16h à 18h. Mini-reportage, interview, discussion libre, musique. Et justement, on prévoit un temps pour les personnes désireuses de venir dire un mot. Ou deux, ou trois, parce que oui, il y en a des choses à dire, à chanter, à mettre en prose, à crier. Contacte-nous à camille@radiogalere.org.
Alors, cette semaine, on avait envie de faire un billet politique. Ouais, j'avais envie de placer billet politique. En vrai, on avait envie de faire un coup de gueule à propos d'une info qui a fait la une des médias cette dernière semaine. On va vous parler du débarquement d'Ocean Viking, le bateau de l'ONG SOS Méditerranée à Toulon. Donc, ça avait lieu vendredi dernier, le 11 novembre. Ocean Viking a donc secouru en Méditerranée centrale 234 personnes entre la Libye et l'Italie. 234 personnes qui étaient sur la route depuis le Bangladesh, l'Érythrée, la Syrie, l'Égypte, le Pakistan et le Mali notamment. 234 personnes qui, comme des milliers d'autres, mettent leur vie en jeu pour pouvoir se déplacer. Alors bien sûr, on est super soulagés que ces personnes aient été secourues. Et bien sûr, on a envie de lutter pour que plus de sauvetages soient organisés. On aimerait, bien sûr, et on continue à lutter pour ça, pour qu'il n'y ait pas à faire ces sauvetages, pour que les gens puissent circuler et s'installer librement, sans faire face à la violence des frontières. Et à défaut de ça, pour que les sauvetages soient assurés de manière systématique, quelles que soient les personnes en détresse. Par les gardes-côtes, notamment, dont c'est censé être le taf, par les États européens qui touchent des sous pour ces missions de sauvetage qu'ils n'assurent pas. Puisque, pour rappel, chaque État européen qui est responsable d'une zone de recherche et sauvetage en mer reçoit des sous pour coordonner des sauvetages sur ces zones. Et bien sûr, dans un contexte où les États européens n'assurent pas ces missions de sauvetage, on a envie de continuer à lutter pour que des bateaux de sauvetage puissent secourir des personnes en mer et puissent débarquer dans les ports les plus proches, les ports sûrs les plus proches. Donc voilà, c'est pour ça qu'on se réjouit que l'Ocean Viking ait pu secourir ces personnes et que face au refus scandaleux de l'Italie de les laisser débarquer, il ait pu accoster dans un autre port, à Toulon. Même si atteindre ce port a nécessité 3 semaines de navigation supplémentaire, avec des conséquences catastrophiques pour les personnes à bord. Mais ce soulagement, il ne nous empêche pas d'être très en colère. En colère d'abord contre les États européens, en colère contre le gouvernement italien qui a refusé de lancer une opération de sauvetage, comme ça lui arrive tous les jours. Parce que oui, il ne s'agit pas juste de ces 234 personnes, mais de toutes celles que les États européens choisissent de laisser mourir en mer. Les États européens comme l'Italie, comme Malte, comme la Grèce, ces États qui ne répondent pas aux appels de détresse et qui criminalisent les personnes qui traversent, les personnes en solidarité avec les personnes qui traversent et les bateaux ONG. On est en colère aussi contre le système des visas, qui fait que venir en Europe, eh ben c'est très compliqué pour des tas de gens, parce que les visas sont refusés, parce que demander des visas, c'est des procédures hyper compliquées, qui coûtent très cher, et puis au passage, hop, les États européens se font un peu de thunes sur le dos des demandeurs et des demandeuses de visas, et que finalement, si elles veulent se déplacer, eh ben les personnes n'ont pas beaucoup d'autre choix que de prendre la mer. On est en colère aussi contre le gouvernement français, qui a créé une zone d'attente internationale, un dispositif de merde, pour que les gens ne soient pas considérés comme débarqués en France, pour qu'ils et elles soient accueillis par toute une armada militaire et qu'ils et elles ne puissent pas sortir de ce dispositif avant l'évaluation de leur demande d'asile. Et en ce moment, à la cour d'appel d'Aix, eh ben, y a un procès d'environ 90 des passagers passagères de l'Océan Viking qui n'ont pas été admis sur le territoire au titre de l'asile. D'ailleurs, pour celles et ceux qui sont dans les environs, il y a un appel à solidarité qui est lancé, donc n'hésitez pas à aller soutenir les gens si vous nous écoutez depuis là-bas. Voilà, toute cette histoire nous a donc mis en colère. Ça nous a mis aussi en colère contre les propos de SOS Méditerranée, largement relayés par les médias.
Il faut que le droit de la mer soit respecté. Nous le respectons, il faut que les États le respectent. Et en combinaison avec cela, il est impératif qu'il y ait une solidarité européenne envers Malte, envers l'Italie, envers les pays de ce qu'on appelle les pays de première arrivée, afin qu'un système pérenne, prévisible, coordonné, de solidarité, de répartition de toutes les personnes rescapées soit effectif dans l'Union européenne.
Alors, je vous rappelle que nous sommes une organisation de sauvetage et que nous n'avons pas de compétence sur la question de l'accueil, en fait, une fois que les personnes sont débarquées dans un lieu sûr. Et je répète, le sauvetage se termine une fois que tous les rescapés, donc on est impatients qu'ils arrivent tous, ont pu débarquer dans un lieu sûr. Donc, SOS Méditerranée n'a pas de jugement particulier de telle ou telle politique d'accueil. Ce qui est évident, c'est qu'il faut des mécanismes de solidarité européens. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. C'est ça, nous, qui nous préoccupe. Il y a d'autres acteurs qui pourraient répondre mieux que nous à votre question sur l'accueil ensuite et les politiques migratoires à terre.
On est donc en colère contre les propos d'SOS Méditerranée parce que le seul problème politique pour SOS Méditerranée, c'est un problème de solidarité entre les États européens, comme ils disent. Alors que ce qui nous préoccupe à nous, c'est ce qui se passe pour les personnes tout au long de leur route, à terre, en mer, en Europe. Ce qui nous préoccupe, c'est que les États européens organisent la mort de tout un tas de gens. Parce que SOS Méditerranée refuse de prendre une quelconque position sur pourquoi des sauvetages sont nécessaires et pourquoi des personnes sont en détresse en mer. Et que bien sûr, c'est pas un hasard si des tas de gens prennent la mer et entreprennent ces traversées hyper dangereuses. Parce que SOS Méditerranée n'a rien à dire sur les politiques d'accueil des États européens parce que leur seul objectif est de faire des sauvetages. Mais comment peut-on parler de sauvetage aux frontières de l'Europe sans pointer les responsabilités de celles et ceux qui mettent en danger ces vies? Comment est-ce qu'on peut ignorer que les personnes débarquées à Toulon, par exemple, vont être expulsées pour une partie et peut-être retenter une traversée et que la situation peut se reproduire à l'infini avec au passage toujours plus de mortes? Alors non, on pense pas que c'est ça le problème principal. Et oui, à nous, ce qui nous préoccupe, c'est les personnes qui traversent. Et oui, notre colère va contre le système des frontières et ce qu'il produit. On a entendu parler pendant des jours et des jours des 234 passagères de l'Ocean Viking dans les médias. Et on voulait rappeler qu'il y a des tas de gens qui traversent et que toute cette histoire est en fait une histoire quotidienne. Heureusement, pour finir ce petit billet, une manif a été organisée dans les rues de Toulon, un peu au dernier moment, entre la cérémonie du 11 novembre et le rassemblement des fachos. Ouais. On était quand même quelques centaines de personnes, contentes de se tenir ensemble et de crier notre colère et notre solidarité avec celles et ceux qui se déplacent et qui luttent pour que d'autres puissent le faire.
Les infos choisies, vendredi,
les
midi 30.
Les infos choisies, vendredi,
les
midi 30.
Les infos choisies, vendredi, midi 30.
Alors, en Iran, il y a eu un appel à 3 jours de grève générale et de mobilisation entre mardi et jeudi pour commémorer le novembre sanglant de 2019. À l'époque, il y avait eu des manifestations pour protester contre l'augmentation du coût du carburant, mais elles avaient vite tourné en contestation de la politique du gouvernement, et du gouvernement en général. Ça parle de 1500 personnes tuées et des centaines emprisonnées pendant ce mouvement, pendant ce novembre sanglant de 2019. Là, ça fait 2 mois que les Iraniennes et les Iraniens manifestent contre le régime islamique et les forces du gouvernement ont encore ouvert le feu sur la foule dans plusieurs villes, notamment les villes du Kurdistan iranien. L'organisation Iran Human Rights, elle estime à au moins 342 le nombre de personnes tuées dans la répression du mouvement et environ 15 000 personnes arrêtées. Depuis dimanche, 5 manifestants ont été condamnés à mort. L'ONG craint des exécutions de masse. Apparemment, l'appel à la grève a bien été suivi, notamment parmi les commerçants du Grand Bazar de Téhéran, ce qui a une valeur symbolique importante, d'après la chercheuse Azadeh Kian, les bazaris appartenant aux couches traditionnelles de la société iranienne, les plus proches du clergé, donc. Malgré tout, il y a eu assez peu de grèves dans le secteur industriel, qui est décisif pour le gouvernement. Les débrayages qui ont eu lieu en octobre dans les raffineries de pétrole et les usines pétrochimiques n'ont pas donné lieu à un mouvement d'ampleur. Si vous voulez des clés de compréhension sur ce qui se passe en ce moment en Iran, vous pouvez écouter les 2 derniers épisodes du podcast « L'actu des oubliés » qui y sont consacrés. Et sinon... des manifestants ont incendié hier la maison natale de l'ayatollah Khomeini, le guide suprême de la révolution islamique de 1979, en espérant que d'autres suivent.
کن که سحر تو چشم تو بیدار بشه صدا بزن اسمم و تا زمستونم بهار بشه وقتی تو نیستی تو خونه یه غم نسر غم چیزی نیست توی دلم میگم که کاش دلم هزار هزار بشه اون که میونه من و تو دردمون دوچار بشه سر به ستاره میزنم سکه ماهو میشکنم یه روز اگه دستای من با دستای تو یار بشه ستاره میزنم سکه ماه و میشکنم یه روز اگه دستای من با دستای تو یار بشه چشماتو وا کن که سحر تو چشم تو بیدار بشه
صدا بزن اسمم و تو زمستونم بهار بشه وقتی تو نیستی تو خونه یه غم نسد غم چیزی نیست توی دلم میگم که کاش دلم بزار بزار بشه اون که میونه من و تو خط جدایی کشیده دل میگه نفیمش کنم به دردمون دوچار بشه سر به ستاره میزنم یه روز اگه دستای من با دستای تو یار بشه
Ok, vous êtes toujours sur Radio Galère 88.4 FM et c'est les infos choisies de 12h30. On vient d'écouter Marjan avec, alors je vais sûrement mal le prononcer, désolé, Sekema. Alors je sais pas si vous avez entendu parler de la Coupe du Monde au Qatar. Vinci Construction Grand Projet, qui est, comme vous l'aurez deviné, une filiale du groupe Vinci, a été mis en examen la semaine dernière pour des chantiers liés à la Coupe du Monde au Qatar. La boîte est accusée de soumission à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité, obtention de la fourniture d'une personne en situation de vulnérabilité ou de dépendance, avec une rétribution sans rapport avec l'importance du travail accompli, et puis de tout simplement réduction en servitude, pour des faits présumés entre 2011 et 2014. Une première plainte avait été déposée en 2015 par l'association Sherpa qui défend les populations victimes de crimes économiques. Elle avait été classée sans suite faute de victimes identifiées. En 2018, l'ONG, avec le Comité contre l'esclavage moderne et 6 anciens employés, avait déposé une nouvelle plainte qui aboutit aujourd'hui. Alors le baveux de Vinci a déclaré que ces ouvriers n'ont pas été maltraités, ils ont été traités différemment qu'en France. Les standards de travail au Qatar ne sont pas les mêmes. Et puis de toute façon, Macron l'a dit, il ne faut pas politiser le sport.
Ici, on est dans la zone de Bure, on est plus précisément à Luméville-en-Ornois, sur le site de la gare. Donc, c'est une ancienne gare qui a été rachetée par des militants et des militantes d'ici, qui sont opposés à un projet d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure. Et le site de la gare devrait peut-être être réhabilité pour... faire passer des trains qui amèneraient des déchets radioactifs de toute la France jusqu'au centre d'enfouissement ici à Bure.
Donc en fait, ce que ça permet, cette histoire de déclaration d'utilité publique, c'est de dire « Ah ben en fait, il y a l'intérêt supérieur de la nation. » Tous les terrains donc, de la voie ferrée, par exemple, mais aussi d'autres parcelles de champs dont il y a besoin pour le projet, parce que c'est vraiment un gouffre à foncier agricole et forestier, doivent être récupérés par l'Andra pour construire cette future voie ferrée. Et c'est pour ça qu'il y a aussi un enjeu en ce moment à faire connaître le lieu pour avoir des soutiens, pour que ça leur paraisse un petit peu plus compliqué d'entamer l'action administrative de l'expropriation. On essaye que les gens aient envie le jour J de défendre soit de loin, soit en venant sur place le terrain, et de provoquer un attachement au lieu pour qu'on ne se dise pas « Ah, bah, c'est un bout de terrain, un bout de champ qu'on va virer, tout le monde s'en fout. » Et aussi de proposer quelque chose de plus désirable que une voie ferrée radioactive sur cet endroit. Voilà, que des gens aiment y vivre et y organiser des événements, qu'ils vivent des choses chouettes dessus.
En faisant des allers-retours avec les militants d'ici, a été décidé de faire une action où on a été à 150-200 personnes venir chanter devant l'Andra. L'objectif en fait de ce temps de rassemblement, il était de pouvoir manifester à l'Andra, donc, qui est l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs, notre désaccord face à ce projet, et aussi de pouvoir soutenir la lutte locale en étant accompagné des buriens et des buriennes ici et en allant ensemble devant l'Andra. Ça fait 3 ans qu'il n'y a pas eu de manifestation devant l'Andra, donc c'était hyper important pour les gens d'ici et du coup pour nous qui venons les soutenir, de les accompagner et d'aller tous et toutes ensemble devant l'Andra manifester notre désaccord contre ce projet. Et du coup c'était un temps qui était assez joyeux en fait, et il y avait je trouve un vrai décalage entre la joie qui est presque carnavalesque que nous on apporte et l'ambiance de ce projet là qui est mortifère, quoi. Un des moments forts pour moi, ça a été vraiment de pouvoir chanter aussi le chant que les buriens buriennes avaient écrit spécialement pour notre venue. Et c'est une chanson qui s'appelle « Elle nous a fait aimer la Meuse ».
Pouvoir en fait avoir un mouvement collectif et coloré et festif et déter dans ce cadre-là, ça m'a donné de la force et ça permet en fait de casser des barrières, parce que quand on est ici, on se dit on peut plus faire ça, alors qu'en fait juste on l'a fait, on s'est fait taper dessus et après on a des traumas et du coup on se dit qu'on peut plus faire, et en fait en vrai on pourrait faire, et c'est bien en fait d'avoir une des gens de l'extérieur ou une dynamique autre qui nous permet de nous réapproprier ça. Il y a des choses qui sont possibles et qu'il faut qu'on arrive un peu à dépasser et nos traumas et à trouver des énergies et des idées d'autres endroits et d'autres groupes, quoi.
Vraie nécessité de mobilisation ici à Bure sur ce projet. C'est quand même un projet d'enfouissement de déchets nucléaires qui, euh, qui est prévu pour 100 000 ans, quand même, c'est pas rien. C'est pas un aéroport, c'est pas une route, c'est un projet qui est impactant pour non pas des générations futures, mais des civilisations futures. Et que l'enjeu de mobilisation et de lutte ici, il dépasse de très loin plein d'autres choses et il est très très fort. Enfin, moi je trouve que, y a, voilà, que ces rencontres-là de chorale, j'espère, vont permettre à participer, à mobiliser d'autres personnes et de plus en plus de personnes. Et voilà, il faut venir à Bure, il faut venir à Bure.
Voilà, voilà, c'était des extraits sonores d'une vidéo d'un court-métrage quoi, qui dure une dizaine de minutes, que vous pouvez retrouver sur Vimeo et qui s'intitule « Nous ne serons pas radioactifs ». Est-ce qu'on n'arriverait pas à la fin de cette émission ? On dirait qu'on arrive à la fin de cette émission.
Tout doucement.
Là, c'est le moment de prendre un papier, un voilà. Stylo.
Un agenda.
Un agenda.
L'agenda des enfants choisis.
Avec un okay. Jingle complètement what the fuck.
Et alors, on commence cet agenda avec ce soir, donc à 19h, et ben c'est la cantine Manifestant à Manifesten.
Oh yeah. Miam miam.
Ce mois-ci, c'est en soutien à l'association des usagers de la PADA, qui regroupe des demandeurs et des demandeuses d'asile, avec trois activités principales, donc les permanences juridiques, les distributions de colis alimentaires et l'accès à l'hébergement, avec la création d'un CADA autogéré. À Marseille, voilà. C'est ce soir à 19h à Manifesten, rue Thiers, et c'est à prix libre.
Ouais, et l'équipe Alarme Faune Marseille vous invite samedi, demain, à Manifesten, 59 rue Thiers, pour un exposé mis en scène sur la question des frontières, leur externalisation, la formation des États-nations et les conséquences de tout ce bordel. C'est présenté par le collectif grenoblois Confrontières et ça sera suivi d'une bouffe et d'une boum. C'est à partir de 17h.
Le dimanche 20 novembre, ce sera le Tidor, journée du souvenir trans, avec des projections, un rassemblement avec prise de parole et des performances. Ça se passe au Vidéodrome sur le cours Julien à partir de 18h.
Et dimanche, c'est aussi la journée internationale des droits des enfants et il y aura un rassemblement à 16h, place du Général de Gaulle au niveau du manège, à l'appel des collectifs MIE13, RSF, des collectifs 113 et 115 et de la LDH.
Et dimanche aussi, de midi à 21h à la plaine, festival Rien à foutre, boycott Qatar 2022, on en parlait il y a quelques minutes. Repas de quartier, auberge espagnole, concert et foot de rue, c'est dimanche à partir de midi.
Et dimanche toujours à 18h30 à la DAR 127 rue d'Aubagne, on échangera sur l'histoire et l'actualité des luttes contre les déchets nucléaires, on en parlait aussi, et sur les relations entre écologie et ruralité à partir d'extraits commentés du film Notre Terre mourra proprement avec la réalisatrice et le réalisateur.
Et mardi 22 novembre, on va à Martigues cette fois-ci, à 18h au rallumeur d'étoiles, il y a la présentation du livre Guide du Marseille colonial et une discussion avec les auteurs et les autrices, suivi d'un repas algérien pour lequel il faut réserver.
Mercredi 23 à la DAR, toujours 127 rue d'Aubagne, il y a une soirée autour du métier de modèle vivant. Avec une projection d'un film documentaire, un atelier dessin et une bouffe. C'est donc à la DAR à partir de 18h pour l'atelier dessin.
Et jeudi, on sera le 24 à partir de 19h. Il y a une présentation du fonds VIH, révélateur politique et social en lien avec le travail et en hommage à Sandrine Musso. Donc c'est à la librairie Transit, c'est 51 boulevard de la Libération dans le premier, c'est à partir de 19h jeudi.
Et enfin vendredi 25 novembre, c'est la journée mondiale pour la lutte contre les violences faites aux femmes. À 18h30 au Vieux-Port, il y a manif féministe avec cortège de tête sans mexis et dress code en noir, voilà.
Et une journée, toute la journée, une journée radiophonique de lutte contre les violences de genre et sexistes. Il est 13h tout pile,
ah
les
là
amis.
Là.
C'est beau ça.
Franchement.
Il est temps de retrouver le 13h sur TF1 si vous voulez plus d'informations choisies. N'importe quoi.
Ou alors de nous réécouter sur le site de Radio Galère en rediffusion. Et en rediffusion sur Radio Galère à 7h30 lundi matin.
Tous les podcasts des infos choisies sont dispo sur radiogalère.org. On se retrouve vendredi prochain. Des gros bisous.
À la semaine prochaine.
Ciao.
Ciao, ciao.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org. Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.